Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le gouvernement congolais prend des dispositions pour combattre l'épidémie des monkeypox, notamment la prise en charge gratuite des malades et la sensibilisation de la population au respect des règles d'hygiène. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce vendredi. Des policiers congolais accompagnés de leurs femmes et enfants en provenance de l'Ouganda sont de retour au pays. Ils avaient fui l'entrée des rebelles du M23 à Ishasha dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Des précisions dans ce journal. L'invité de la rédaction ce soir nous vient de Kindu, dans la province du Maniema. Annie Sinandu Kumwange, coordonnatrice de l'ONG Action pour la sauvegarde de l'enfant et de la femme, nous parle d'un projet en cours sur la protection de l'environnement dans les zones minières. Voilà tout pour le sommaire. À toutes et à tous, bonsoir. Santé pour commencer. Le Conseil des ministres d'hier s'est penché sur de nombreux cas de l'épidémie de monkeypox ou variole des singes évoqués dans le rapport du ministre de la Santé. Dans les comptes rendus de la 9e réunion hebdomadaire du gouvernement, il est indiqué que 8 provinces sont fortement touchées par cette maladie, nécessitant des prises en charge adéquates pour stopper sa propagation. D'autres l'étaient avec Askin Zigbiatayoro.
Équateur, Nord Kivu, Sud Kivu, Ubangi, Sankuru, Tchopa, Mongala et Tchopo sont là les provinces les plus touchées par la variole du singe M-Pox. Dans le compte rendu du 9e conseil du ministre, le porte-parole du gouvernement rapporte que les pays a enregistré un cumul de 14 091 cas à partir du début de l'année 2024 jusqu'à la 30e semaine épidémiologique. Des cas suspects, dont 5 décès, rapporte Patrick Mouyaya. Des actions gouvernementales pour faire face à la maladie sont en cours, telles que évoquées au Conseil par les ministres de la Santé, notamment la prise en charge médicale gratuite des cas de M-Pox, le suivi de contacts dans les zones de santé respectivement affectées et la promotion de la surveillance à base communautaire. À cela s'ajoute la sensibilisation de la population au changement de comportement face à la propagation de la maladie. D'après le compte rendu, le gouvernement renforce la surveillance au point d'entrée et au point de contrôle. Toutes ces mesures sont accompagnées de la validation d'un plan national stratégique de vaccination contre la maladie et puis un déploiement au nord Kivu et sud Kivu des kits de prélèvement.
Merci à vous, Askin Zigbia. Parlons de cette très bonne nouvelle pour les magistrats congolais en ce qui concerne la couverture santé, prévoyance sociale et frais funéraires. Le Conseil supérieur de la magistrature et la firme Activa ont signé hier une convention d'assurance. Cela intervient après la signature du protocole d'accord pour la construction des résidences dignes pour les magistrats dans leur cité située à Maluku, ici à Kinshasa. C'est ce que nous dit Jeff Ngoy.
Le Conseil supérieur de la magistrature et Activa conviennent de la prise en charge d'environ 5000 magistrats. Activa exprime sa satisfaction auprès des dirigeants du CSM, dont le président Dieudonné Kamouleta, pour avoir permis la matérialisation de ce projet après plusieurs mois d'études. Elle assure les magistrats de son accompagnement dans la prise en charge de leur santé, humanité et de mettre en place des frais funéraires en cas de décès. Tout est mis en œuvre pour que le contrat entre en vigueur dans les meilleurs délais. La prochaine étape va concerner le recensement des magistrats afin de démarrer le dit contrat. Selon le secrétaire permanent du CSM, Telesfor Ndouba, les magistrats ne sont pas pris en charge quand ils tombent malades ou quand ils meurent. L'article 25 du statut des magistrats stipule que la prise en charge des soins de santé et de funérailles des magistrats avec leurs dépendants est assurée par l'État. Mais cela n'a jamais été appliqué.
Pendant ce temps, la province du Congo central va recevoir en septembre le premier lot du vaccin anti-paludisme Vapensigle. C'est dans ce cadre que les leaders communautaires de la ville de Boma ont été sensibilisés ce vendredi sur le bien fondé du vaccin contre la malaria. Cette activité, organisée par la mission conjointe Programme élargi de vaccination PEV et le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, venu de Kinshasa, vise à vulgariser l'importance du vaccin contre la malaria en RDC, où les statistiques des décès dus à cette maladie sont alarmantes selon les organisateurs. Dans son adresse à cette occasion, Dr Samuel Lumbu du PEV Kinshasa invite les participants à faire bon usage des informations reçues et dit attendre de la répercussion du message à la population afin qu'elle soit bien informée avant le déploiement du vaccin. Le point avec Nana Plurish-Mambu.
La RDC se lance dans la vaccination contre le paludisme après les Malawi, la Côte d'Ivoire et les Ghana où la vape produit déjà de bons résultats. Cette vaccination concerne les enfants de 6 à 23 mois. Les vaccins seront administrés lors des activités de consultation préscolaire. Pour être complètement vacciné, chaque enfant recevra 4 doses. À 6 mois, à 8 mois, 9 et 15 mois. Si cette activité vaccinale ne cible que dans un premier temps les enfants, c'est parce que d'après Dr Jérôme Ntangou, expert national au PNLP, les taux de décès dus au paludisme est très élevé. En 2023, plus de 27 millions de cas de paludisme ont été enregistrés, parmi lesquels 22 000 décès dont 15 000 enfants de moins de 5 ans. Cependant, avec les VAP, le gouvernement de la RDC attend baisser les cas d'hospitalisation et réduire les taux de décès dus à cette maladie. Cette sensibilisation sur les bien fondés du vaccin contre la malaria a bénéficié aux acteurs communautaires, leaders d'opinion et membres de la Task Force Communication Antenne PEV Boma, ainsi qu'aux professionnels des médias. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
Changeons de chapitre. Au Nord Kivu, après 2 semaines d'exil forcé en Ouganda, près de 100 policiers congolais sont enfin de retour en RDC. Ces hommes, qui avaient fui l'occupation par les rebelles du M23 de la cité frontalière d'Ishasha dans le territoire de Rutshuru, sont actuellement basés dans le territoire de Beni. Les détails avec Martial Papimukeba.
Ils sont au total 97 policiers, porteurs de leurs armes et accompagnés de certains de leurs dépendants, notamment des femmes et des enfants, qui sont revenus en RDC ce vendredi 16 août 2024. Les retours s'est effectué par la frontière de Kasindi-Lubiria, où ils ont été accueillis par le colonel Euta Omeonga Jacques, administrateur du territoire de Beni. La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence des responsables des FRDC, de la police et du renseignement militaire dans la région, qui ont procéder à leur identification et aux formalités d'immigration. Des sources sécuritaires rapportent que ce retour a été coordonné entre les autorités ougandaises et congolaises. Selon l'administrateur du territoire de Beni, ces policiers sont actuellement pris en charge par le gouvernorat du Nord Kivu et seront temporairement rapatriés à l'état-major de la police nationale congolaise du district d'Oicha en attendant les instructions des autorités nationales. Rappelons qu'ils avaient fui le 4 août 2024 l'occupation de la cité frontière d'Ishasha par les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et en Ituri, la société civile dénonce la montée de la criminalité dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province. Un jeune homme a été abattu vendredi soir par des hommes armés non identifiés. Des vols à main armée ciblés, notamment dans les installations des organisations humanitaires et des coups de feu, sont récurrents dans la ville, indique cette structure citoyenne. Son coordonnateur demande aux services de sécurité de mettre tout en œuvre pour protéger la population de Bunia. Isaac Raymond.
Les cas de criminalité qui se multiplient dans la ville de Bunia inquiètent la population, déclare la société civile de l'Ituri. Toutes les catégories des habitants sont victimes. Le samedi, un revendeur de carburant a été tué vers 19h dans son domicile et un autre jeune blessé par balle au pied par des hommes armés non identifiés en Muzipela. La veille, des échanges de tirs ont été signalés entre les FARDC et un groupe de bandits au quartier Kanyasi. Ces malfrats se sont également introduits dans les installations de Bralima après avoir cambriolé la veille une organisation internationale, ce qui porte à 10 cas de vol à main armée depuis 3 mois chez les humanitaires en Ituri. Face à ces tableaux sombres, la société civile recommande aux autorités d'assumer leurs responsabilités. Son coordonnateur Dieudonné Lossa.
On ne cesse d'enregistrer les cas de banditisme, les vols à main armée et l'assassinat à ville de Bunia. Hier, un revendeur de carburant qui a été malheureusement tué. Ça dérange la quiétude de la population. Les gens ne savent pas dormir calmement. Nous ne pouvons pas quand même vivre ce genre de situation à ville, à 21e siècle.
Le commandant urbain de la police attribue certains cas à la défaillance des services de gardiennage et d'ajouter que les dispositions sont déjà prises pour renforcer les mécanismes de sécurité. Ces cas de criminalité sont enregistrés après environ un mois d'accalmie à Bunia après l'arrestation d'une vingtaine de présumés bandits par la police. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Les différentes annonces des cas d'enlèvement dans la ville de Kinshasa sont montées de toutes pièces dans le but de discréditer le gouvernement. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi. Car après vérification, les faits s'avèrent sans fondement, précise le gouvernement. Ainsi, il appelle les services d'intelligence à une vigilance accrue pour identifier les propagateurs de ces fausses nouvelles. Par ailleurs, le gouvernement décide d'envoyer diligemment une mission des délégués de tous les services pour faire la lumière sur les événements tristes des Kilwa dans le Haut-Katanga où, selon le porte-parole, l'incursion des Mai Mai Fokat a causé la mort des 10 personnes le jeudi 15 août. Direction la ville de Guémena dans le sud d'Ubangi, où les ministres provinciaux sont investis ce samedi par l'Assemblée provinciale réunie en session extraordinaire depuis une semaine. L'Assemblée provinciale n'attendait jusque-là que la publication de l'équipe gouvernementale intervenue tard la nuit de jeudi. C'est après plusieurs tractations entre les forces politiques de la province que le gouverneur a publié son gouvernement en vue de relever les défis auxquels la province est confrontée. Explication de Paul Richard Malengela.
L'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi, expressément convoquée en session extraordinaire, vient de procéder ce samedi à l'investiture du nouveau gouvernement provincial. La cérémonie a eu lieu au cours d'une plénière solennelle, a précisé le vice-président de l'organe délibérant, Papi Malumba. Conformément à la loi en vigueur, le gouverneur Michel Mobonga a formé une équipe de 10 ministres dont une seule femme. 3 anciens ministres y sont repris au poste actuel de ministre de la Justice, du Genre, ainsi qu'au secrétariat exécutif du gouvernement. Selon le poids politique, les postes sont répartis principalement entre le MLC, le CDR et la REP. Si le puissant ministère de l'Intérieur, Sécurité et Ordre Public est attribué à Gabriel Mbombo, l'unique femme ministre, Marie-Thérèse Tontoua, elle, est nommée à la tête du Genre, Famille et Enfants, Culture et Arts, Communication et Médias. Entre-temps, le cadre de concertation de la société civile de Sud-Ubangi se réjouit à travers son président Gilles Mopila. Il formule les attentes de voir ce gouvernement juguler entre autres l'insécurité alimentée par des braquages, mais aussi améliorer le mauvais climat des affaires et la mauvaise gouvernance dans l'administration, les finances et la justice. Bondaka, Porcha Malengela, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle, le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC se tiendra à Kinshasa du 17 au 19 septembre prochain. Annonce faite ce samedi par le comité directeur de cette structure au cours d'un point de presse tenu ici à Kinshasa. Après une crise installée pendant 3 ans, le gouvernement dit vouloir mettre de l'ordre au sein de la Corporation des professionnels des médias en finançant ce congrès qui réunira les journalistes des 26 provinces de la RDC ainsi que le comité scientifique des experts. On écoute l'extrait du communiqué convoquant le 10e congrès de l'UNPC lu par le secrétaire général Diesby Zegbla Wembulu. Au micro de Richard Junior Kamunga.
Vu l'article 24 des statuts de l'Union nationale de la presse du Congo qui stipule que les membres du comité directeur ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois et qu'en vertu de cet article, le mandat des membres du comité directeur élu lors du congrès ordinaire tenu à Mwanda au Congo central du 5 au 7 octobre 2020 arrive à terme le 7 octobre 2024. Conformément à l'article 10 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo et consécutivement aux recommandations des états généraux de la communication et médias, il est convoqué ces jours le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo sous l'impulsion du bureau exécutif après avis du comité directeur lors de la réunion stratégique tenue au centre culturel Boboto du 19 au 21 décembre 2022 à Kinshasa. Ordre du jour. Rapport des activités de l'Union. 2. Amendement et adoption des textes statutaires et réglementaires de l'Union. 3. Élection des animateurs de tous les organes de l'Union. 4. Installation du comité directeur et enfin 5 divers. Lieu Kinshasa. Date du 17 au 19 septembre 2024.
Vous le savez, la rentrée scolaire 2024-2025, c'est déjà pour le 2 septembre prochain. Dans le souci de bien accueillir les enfants, les chefs d'établissement des écoles conventionnées islamiques du Maniema examinent au cours de leur réunion préparatoire les forces et faiblesses de l'année passée en vue d'une amélioration. On écoute à ce sujet Yahya bin Amissi Muslim, conseiller résident des écoles conventionnées islamiques, au micro de Florence Kizalunga.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'application du calendrier scolaire tel que signé par le ministre de l'Enseignement qui prévoit le 16 de ce mois une réunion préparatoire de chefs d'établissement avec leurs gestionnaires de proximité. C'est pour ça que je les ai réunis afin qu'on puisse voir le travail qu'ils ont réalisé au cours de l'année passée et préparer ce qu'ils doivent faire pour l'année prochaine. Nous voudrions voir est-ce que nos chefs d'établissement sont en mesure de jouer correctement leur rôle? Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses? Il y a ce que nous appelons indicateurs dans la réalisation des activités. Nous sommes en train de mesurer où est-ce qu'ils ont failli, quels remèdes faut-il donner pour que nous puissions répondre aux instructions officielles. Parce que nous gérons avec les instructions et nous ne devons pas être à l'encontre des instructions. C'est pourquoi nous les appelons ici pour renforcer leurs capacités, les outiller pour qu'ils puissent exercer correctement leurs tâches dans les écoles respectives.
L'actualité internationale.
Nous sommes au Tchad. Plusieurs provinces enregistrent des grosses pluies ces dernières semaines avec des graves conséquences. Certaines provinces sont presque sous l'eau. C'est le cas de la province du Tibesti, dans l'extrême nord désertique du Tchad, où les autorités locales annoncent la mort d'au moins 60 personnes après des inondations entre le vendredi 9 et le mercredi 14 août.
L'invité.
C'est Annie Sinandou Kumwange, coordonnatrice de l'organisation non gouvernementale de développement Action pour la sauvegarde de l'enfant et de la femme abandonnée, ACFA en sigle. Elle s'exprime sur le projet dénommé « Autonomisation de toutes les ressources pour faire entendre la voix de la femme en faveur des droits humains et de la protection de l'environnement dans les zones minières à petite échelle en RDC ». Annie Sinandou Kumwange s'entretient à Kindu avec Florence Kizalonga.
Madame Annie Sinandougou, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
C'est quoi ce nouveau projet que votre organisation vient de lancer au Maniema?
Le projet que l'organisation vient de lancer au Maniema, c'est un projet qui prend pour l'autonomisation pleine des ressources, pour élever la voix de la femme dans les droits humains, violence basée sur le genre, dans lien avec la transition écologique.
Ce projet sera mis en œuvre en consortium ou comment vous serez seul?
Non, le projet sera mis en œuvre en consortium de 4 organisations. 3 organisations basées en RDC, à l'est de la RDC, une organisation au Maniema, au sud Kivu et au nord Kivu, et une autre organisation partenaire de l'université de Harvard.
Quelles sont ces organisations?
Il y a ACFA qui est basée à Kindu et c'est ACFA qui coordonne ce projet. Nous avons SOFEDIS basée au sud Kivu et aussi Jirena basée au nord Kivu.
Pendant 24 mois, vous allez faire quoi concrètement dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets?
Pendant les 24 mois de la mise en œuvre de ces projets, nous allons communiquer avec la communauté dans le cadre des violences basées sur le genre, comment faire élever la voix de la femme et aussi dans le cadre de la gestion durable de l'environnement pour lutter contre les changements climatiques dans le but du programme actuel par rapport à la transition écologique et aussi pour l'autonomisation de la femme, pour avoir aussi le renforcement des pouvoirs économiques des femmes dans les associations villageoises d'épargne et de crédit.
En mettant en œuvre ce projet, qu'est-ce que vous visez?
D'abord, c'est la reconnaissance des droits des femmes dans le secteur minier, puisque la femme aussi a l'accès, même le code minier donne aussi la possibilité à la femme d'accéder dans les sites miniers et exercer les activités minières. Et la deuxième chose, c'est ce que nous visons, c'est le renforcement des pouvoirs économiques des femmes, voire même des ménages. Si on parle des femmes, c'est-à-dire les ménages et les là-dedans. Et aussi par rapport à la protection de l'environnement. Nous devons lier tous les deux, puisque nous voulons aussi voir la contribution de la femme par rapport à la protection de l'environnement, puisque les changements climatiques nous touchent, nous tous.
Madame, qu'est-ce que vous attendez des autorités politico-administratives de ces 3 provinces où ce projet sera exécuté?
Ce que nous attendons, c'est leur accompagnement, leur soutien et aussi la sécurisation des acteurs sur le terrain. Puisque les autorités locales sont des partenaires incontournables dans la mise en œuvre de ces projets. Puisqu'il y aura des actions que nous allons mener, par exemple, on peut mener un plaidoyer auprès de l'autorité. Il faut que l'autorité nous accompagne dans ce plaidoyer pour que la France puisse avoir une place de choix dans l'exploitation artisanale des minerais.
Alors, à la communauté bénéficiaire alors?
À la communauté bénéficiaire de s'approprier les projets, puisque sur le terrain nous allons lancer les animateurs et nous avons eu une stratégie de recruter les animateurs sédentaires, les gens qui vivent avec la communauté au sein de cette communauté-là. Et aussi à la communauté de s'impliquer, d'accepter et aussi d'accompagner les animateurs qui vont leur donner des informations, puisque ces animateurs ne sont que les serviteurs, pour que les droits de la femme soient intériorisés par la communauté et que la femme soit aussi reconnue comme une personne, un partenaire incontournable dans l'exploitation par rapport à l'économie de la RDC.
Faisons un pas en arrière, parlant des femmes qui travaillent et qui œuvrent dans le secteur minier. Quelle est leur situation aujourd'hui?
Aujourd'hui, par rapport à la situation de la femme qui font l'exploitation artisanale des minerais. La femme, elle travaille beaucoup, mais elle gagne peu. Encore une autre chose, elle peut avoir ses propres moyens, mais pour accéder dans les sites miniers, elle habitait dans beaucoup de difficultés par rapport à nos coutumes. Nos coutumes ne donnent pas la possibilité à la femme d'accéder dans les sites miniers, même si elle a des moyens. Et aussi, la femme travaille toujours sous la dépendance des hommes qui sont dans les sites miniers, avec le risque d'être escroquée.
C'est-à-dire ces projets, ça sera comme un projet sauveur pour elle.
Effectivement, c'est un projet sauveur puisque dans ce projet-là, nous allons mettre et les hommes et les femmes comme bénéficiaires de ces projets. Et là, l'homme va écouter, va accompagner la femme pour que les droits de la femme soient reconnus par cet homme-là qui a toujours abusé des droits des femmes.
Madame Annie Sinanduku Mwangi, merci.
Notre invité était avec Florence Kizalunga. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, supervisé par Alain Rung et mis en onde par Mimi Kindou. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci.